Le sport avec les Jeux Olympiques et la France qui continue sa moisson. 6 nouvelles médailles la nuit dernière. Une en or pour Nicolas Gestin en canoë slalom, 4 en argent et une en bronze. En natation, on signalera que la Calédonienne Emma Terebo est qualifiée pour la finale du 100 mètres d'eau. Elle a terminé 4e de sa demi il y a quelques minutes. La météo, loyauté, les passages nuageux deviennent de plus en plus fréquents et déposent d'ailleurs des averses en cours d'après-midi. Ailleurs, le ciel sans nuages en cours d'après-midi avec quelques averses isolées qui circulent sur l'ouest. Les températures maximales sont stables, comprises entre 24 et 27 degrés.
Bienvenue dans l'Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité sur le territoire.
Oui, avec un soutien financier d'urgence, l'État et la Banque des Territoires apportent une aide de 150 millions d'euros à la Nouvelle-Calédonie, soit près de 18 milliards de francs, Isabelle Pelletier.
Il s'agit d'une avance remboursable de 100 millions d'euros de l'État sur le compte de la Nouvelle-Calédonie pour aider les différentes collectivités, la CAFAT, la CLR et Enercal. Le prêt de 50 millions de la Banque des Territoires a vocation à financer des opérations d'investissement, en particulier dans les infrastructures, fournissant ainsi un appui crucial à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Cette aide conjointe doit permettre, je cite, de répondre aux défis économiques immédiats, accélérer la reconstruction et à promouvoir une reprise durable. Dans un communiqué conjoint, l'État et la Banque des Territoires indiquent qu'avec l'effondrement des recettes fiscales, la Nouvelle-Calédonie se retrouve aujourd'hui dans une situation financière critique, nécessitant la mobilisation urgente de financements externes pour engager sans tarder les travaux de reconstruction.
Alors on vient de le voir, l'État aide Enercal. Dans un communiqué dédié, le Haut-Commissariat rappelle que face à la crise survenue le 13 mai, l'État avait apporté une aide totale de 30 milliards de francs, dont 12 sous forme d'avances remboursables versées à la fin du mois. Sur ces 12 milliards d'avances remboursables, 1,7 seront fléchés au profit d'Enercal pour éviter la cessation imminente de paiement. L'État indique que cette aide exceptionnelle va permettre à l'entreprise d'assurer son fonctionnement et ainsi de permettre la fourniture en électricité durant les mois qui viennent, le temps que des réformes en cours d'adoption lui assurent un fonctionnement pérenne. Fin de citation. Et puis toujours du côté des aides, Air Calin et l'État annoncent avoir mis en place 3 vols supplémentaires entre Nouméa et Wallis, Isabelle.
Ces vols supplémentaires partiellement soutenus par l'État visent à répondre à une demande de déplacement des populations durant une période de faible demande. Ils permettent ainsi le maintien de la continuité territoriale entre Nouméa et Wallis, alors même que le remplissage de ces vols aurait été insuffisant pour qu'Air Calin mette en place des vols réguliers. Ces rotations supplémentaires Nouméa-Wallis-Nandi-Nouméa étaient programmées lundi 22 juillet et 29 juillet hier. Une autre aura lieu lundi prochain, le 5 août. Ces vols permettent une connexion le jour même vers la métropole via Nouméa, puis Singapour et Tokyo. La programmation de 2 vols hebdomadaires permettant à la fois le trafic passager, fret et courrier a été garantie via la signature d'une convention entre la représentation de l'État à Wallis et Air Calin.
Info matin, il est 6h34.
Je le disais en titre, la mise en veille à froid de l'usine du Nord est quasiment inéluctable. Même si KNS affirme que des repreneurs restent intéressés, l'annonce de l'industriel de mettre au chômage les 1200 salariés ne laisse guère planer de doute. Et elle suscite évidemment de l'inquiétude sur la zone VKP, Isabelle.
Les maires des 3 communes et les coutumiers de la région ont été officiellement informés lors d'une réunion en fin de semaine dernière avec les responsables de KNS. La mise en veille à froid de l'usine est une échéance à laquelle les pouvoirs publics s'attendaient, mais personne ne peut en mesurer les conséquences. Elles sont pourtant réelles, notamment sur Koné, nous a dit Patrick Robert, deuxième adjoint au maire.
1200 personnes, on va dire que s'il y en a 800 foyers qui sont sur Koné, avec les conjoints, des enfants à l'école et tout, l'impact pourrait être de 2000 personnes sur un bassin de 10 000 habitants qui seraient concernés directement par la réduction d'activité et le chômage à partir de septembre. Les premières choses visibles, je pense, ça sera les commerçants et les restaurants, qui auront beaucoup moins de clientèle. Les écoles, pas forcément, parce qu'il y aurait des retours d'enfants qui étaient avant à Nouméa et qui viendraient se rescolariser à Koné, comme un peu les îles l'ont dit. Mais c'est sûr que c'est les commerçants. L'immobilier encore, c'est sûr que l'immobilier, les agences vous confirmeraient qu'il y a eu 150 maisons libérées depuis l'annonce de la fermeture programmée de Glencore KNS en mars 2024. Et l'ambiance dans la ville devrait s'en ressentir assez rapidement, parce que forcément, les gens n'auront pas les mêmes consommations qu'ils avaient il y a 2 mois ou 3 mois.
La mairie de Koné s'inquiète donc des conséquences de la mise en chômage des salariés de KNS qu'elle va subir, mais elle doit aussi se préparer à une baisse de ses recettes, car la situation des finances publiques, aggravée par les émeutes, se complique.
On attend d'avoir les confirmations des réductions qui ont été annoncées pour le budget des collectivités, le budget de répartition. Là, c'est sûr qu'on attend le chiffre pour la mairie de Koné. On avait par exemple un FIP à 581 millions, donc on attend de savoir quel est le chiffre officiel qu'on aura en 2024. Donc on vient de faire une réunion budgétaire avec le maire et les services. si on nous enlève 100 millions de recettes, ben, il faudra forcément enlever 100 millions de dépenses.
Cette mise en sommeil à froid de l'usine KNS et les difficultés des finances publiques auront donc des conséquences sur le tissu économique. En plus des 1200 salariés impactés directement, il faut ajouter les sous-traitants, dont une grande partie de l'activité dépendait de KNS. Eux aussi sont inquiets depuis déjà plusieurs mois, c'est ce qu'explique Guillaume Calvo, membre du collectif des sous-traitants.
On est en plein dedans depuis fin février. On essaie de se débrouiller un peu à droite à gauche, essayer de trouver des petits contrats, des petits travaux avec les administrations en province nord, du particulier, un petit peu de travail avec la SLN, tout ça lié avec la situation insurrectionnelle du pays. On a passé vraiment des mois très très compliqués. Là, on a dû licencier quasiment 100% des effectifs. Là. Les craintes pour l'avenir, ben, ce serait qu'il n'y ait aucun repreneur. On reste tout de même confiant, puisque ben, quand on est entrepreneur, il faut être confiant et continuer à espérer. Quoi. Aujourd'hui, on essaye de survivre et on va continuer à serrer les fesses jusqu'à de jours meilleurs.
La mise en sommeil à froid, si elle se confirme, sera effective au 31 août prochain. Sans repreneur, l'usine sera ensuite complètement arrêtée. Et même si repreneur il y a, il n'est pas certain qu'il garde l'outil industriel en l'état, alors que le procédé de l'usine et de ses installations n'ont jamais permis d'atteindre la rentabilité attendue.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la réponse à notre question d'hier, tout d'abord. 89% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent qu'avec le licenciement annoncé de ses 1200 salariés, KNS n'a plus d'avenir. Ils sont 11% à penser que malgré la situation, KNS a encore un avenir. Voici maintenant notre question du jour. Après l'assouplissement du couvre-feu qui débute désormais à 22h, faut-il, selon vous, autoriser les cavistes à rouvrir ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu maintenant. Le secteur de la santé, déjà fragilisé, subit lui aussi de plein fouet les conséquences de l'insurrection déclenchée le 13 mai. Alors, quelle est la situation du secteur médical ? Y a-t-il aujourd'hui du personnel suffisant pour assurer la qualité des soins, dans le public ou dans le privé ? L'appel à la réserve sanitaire est-elle inéluctable et qu'est-ce qu'elle implique ? Eh bien, nous en parlerons ce matin avec notre invité. À 7h30, nous recevrons le docteur Thierry de Grélan, président du comité médical d'établissement du CHT. Et puis, quel regard porte-t-il sur la situation insurrectionnelle et la crise qu'elle génère ? Ce sont les artistes que nous recevrons ce midi dans le magazine Citoyen pour qu'ils nous fassent part de leurs réflexions. Gilles Ménage recevra le comédien Simane, l'écrivain Nicolas Kurtovic, le chorégraphe Stan Cabarlouette et la peintre Caroline de Groisel. Un autre regard sur la situation actuelle en Nouvelle-Calédonie, c'est donc ce midi dans notre magazine Citoyen. En attendant, il est 6h passé de 40 minutes après la publicité, la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, avec notamment des jeunes qui s'engagent. Après 4 années de formation chez les jeunes sapeurs-pompiers, ils ont été diplômés hier soir.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Mazda informe son aimable clientèle de l'ouverture de la concession de 8h à 15h à Magenta, rue Auguste Bénébigue. Arrivage récent du nouveau Mazda CX-90, un autre monde, une autre dimension.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Des jeunes qui s'engagent au service de la population. 13 Nouméens se sont vus remettre hier soir leur brevet de jeunes sapeurs-pompiers. Ils sont donc maintenant prêts à secourir, protéger, mais aussi informer la population. Cette cérémonie est évidemment très importante. Après une longue formation de 4 années, hier, les jeunes volontaires étaient tous très fiers de leur parcours et de leur engagement.
Ben, moi, je suis fière. C'est une émotion parce qu'on a passé les 4 ans ensemble et puis on l'a tous réussi.
Très bien, rassurée pour la suite, pour mon parcours aussi. Et je suis vraiment très, très, très contente.
Une grande fierté, hein. Franchement, ça fait 4 ans qu'on s'entraînait pour ça. Je sais qu'en termes de valeurs et de principes, ça m'a vraiment apporté beaucoup dans mon quotidien, spécialement dans les temps qui courent, comme vous dites, avec les événements qui se déroulent aujourd'hui, pour tous les pompiers qui sont mobilisés sur le front. Je suis très content de pouvoir dire que je participe en quelque sorte à ça, quoi.
Et la commandante Géraldine Bourgoin était présente pour remettre évidemment les diplômes avec à ses côtés l'adjoint au maire chargé de la sécurité civile, Tristan Déric. L'occasion pour la directrice des services d'incendie et de secours de la ville de Nouméa de mettre en valeur l'espoir que représente cette jeune génération.
Une bouffée d'espoir, une bouffée d'oxygène pour nous. Voilà, depuis les événements, on ne s'était pas tous réunis, tous ensemble. Donc là, il y a une occasion de féliciter, de remettre les diplômes aux jeunes sapeurs-pompiers. Pour nous, c'est le symbole effectivement de cette jeunesse qui s'investit et qui est très attachée à nos valeurs de sapeurs-pompiers. Je n'ai pas perdu l'espoir malgré les périodes difficiles, malgré les caillassages, les insultes qu'on a pu avoir, qu'on ne comprend pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, face à nous, on a des jeunes multi-ethniques qui viennent un peu partout de Calédonie et qui sont fiers de s'investir et de porter les valeurs des sapeurs-pompiers et les valeurs de la République.
Et parmi les participants à cette cérémonie hier soir, également 18 nouvelles recrues âgées de 12 à 15 ans. Ils ont commencé leur parcours en avril dernier, une formation malheureusement interrompue pendant 2 mois à cause des émeutes. Aucune raison pour autant de se décourager, ils sont plus motivés que jamais à porter secours à la population.
Comme le froid, comme plein d'autres entreprises qui ont été brûlées, les pompiers ont intervenu sur plusieurs choses. Ça m'a surtout motivé en me disant je vais peut-être sauver des vies.
Ça m'a motivé un peu parce que je vois que les pompiers, ils sont là sur les barrages en train de sauver un peu les gens et du coup j'ai envie de faire pareil qu'eux.
En tout cas, les pompiers ont beaucoup de choses à nous apprendre, ils ont beaucoup de choses à nous enseigner, à nous raconter. Donc je pense que ça peut être intéressant et puis ils ont eu du courage aussi d'affronter tout ça. Donc moi en tout cas, je suis très fière d'eux, je suis contente d'avoir des formateurs comme ça qui pourront nous apprendre plein de choses.
Et cette formation de jeunes sapeurs-pompiers est organisée depuis 2006 à Nouméa.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h43.
Et puis on l'évoquait tout à l'heure, depuis hier, le couvre-feu est donc décalé à 22h. Un plus évidemment pour les restaurateurs qui vont pouvoir envisager un service du soir. Certains vont aussi en profiter pour étendre les heures de livraison, mais ce n'est pas si évident, Isabelle Pelletier.
La livraison des repas à domicile est devenue en quelques années une habitude pour les Calédoniens, pour envie de cuisiner, envie d'un repas convivial entre amis. Les raisons sont nombreuses d'y avoir recours. Le service avait été mis en pause depuis le début des événements que connaît la Nouvelle-Calédonie, mais il reprend petit à petit. C'est le cas des pizzerias Doc Pizza. Les livraisons sont à nouveau disponibles depuis hier sur la pizzeria de Normandie. Un retour presque tardif, mais nécessaire, explique Christian, le directeur des pizzerias Doc Pizza.
La livraison chez Doc Pizza, en temps normal, c'est 80 à 85% de notre chiffre d'affaires. Donc ouais, une pizzeria comme Normandie, qui elle a réouvert le 19 mai, a perdu 75% de son chiffre d'affaires sur le mois de juin. Jusqu'à présent, on était toujours sur un climat d'incertitude, j'ai envie de dire. Et là, maintenant, depuis une quinzaine de jours, les choses sont quand même relativement apaisées. Et l'accès à certains quartiers redevient plus facile, ce qui du coup nous encourage à remettre en place des livraisons, en tout cas depuis notre pizzeria de Normandie, dans un premier temps. Sur un couvre-feu à 18h, 20h, c'est toujours délicat pour nous qui travaillons essentiellement le soir. C'était compliqué, mais depuis la prolongation 21h déjà, ça nous aura permis de respirer un petit peu plus et ouvrir sur une amplitude horaire un petit peu plus grande. Là, après, je vous avoue, 22h, ça change pas grand-chose pour nous. Malgré tout, on maintient pour le moment une fermeture à 20h, toujours pour la sécurité de notre personnel, afin de leur permettre de rentrer chez eux en toute sécurité à une heure relativement décente.
D'autres services de restauration travaillent presque exclusivement avec les livraisons, comme par exemple les services de Gamelle, qui quant à eux ont dû reprendre leur activité peu après le début des événements. Pour la Niçoise, ce sont principalement les difficultés de circulation qui empêchent un retour à une activité normale, comme le précise Patrick Despujol, gérant de l'entreprise.
On a essayé de réinstaurer les livraisons à partir de début juillet, mais c'est très 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 compliqué, dans le sens où les gens n'ont pas retrouvé de dynamique par rapport à ça. Alors pour plein de raisons, c'est les raisons qu'on connaît, la peur, les moyens financiers, les accès selon les quartiers qui sont toujours barrés. Donc voilà, pour cette raison, on est aujourd'hui très limité. On est à 50% à peu près de ce qu'on faisait, quoi. On livre partout, oui, on va jusqu'à Robinson. Normalement, on va jusqu'au Mont-d'Or en temps normal, mais là, on passe pas à Saint-Louis, on s'arrête à Robinson. On réapprovisionne pratiquement tous les quartiers que l'on desservait avant, alors avec plus ou moins de difficultés par rapport au fait qu'il y a encore beaucoup d'endroits où il y a des chicanes, des barrages, des bazars, donc il faut tourner en rond pour accéder aux rues.
Au début des émeutes, la Niçoise n'a pu faire aucune livraison de gamelle pendant un mois. L'accès à l'entreprise était limité et le personnel n'a pas pu venir travailler, ce qui avait entraîné l'arrêt des fabrications de repas. Autant de raisons qui expliquent aujourd'hui la baisse importante du chiffre d'affaires de l'entreprise.
Merci Isabelle Pelletier. Il est 6h passées de 46 minutes. L'actualité à l'étranger, marquée par une attaque au couteau en Angleterre. 2 enfants ont été tués. Puis on verra aussi après la publicité les principaux titres en métropole.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Vous n'avez pas le temps? Vous avez envie de manger sain et équilibré? La Niçoise vous accompagne. Commandez, c'est livré. Plusieurs formules adaptées à tous les budgets à partir de 750 francs. Plus d'infos sur notre site et sur Facebook. La Niçoise, votre service de gamelle Vallée des Colons.
Avec Canal, faites-vous plaisir. Profitez d'Internet en illimité à partir de seulement 2000 francs par mois. Personnalisez votre offre en combinant Internet, télévision, téléphonie et matériel. Toutes les possibilités s'offrent à vous. Et ça, ça fait plaisir. Souscrivez dès maintenant sur canal.nc.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Excellent début de journée. La suite de votre journal, on retrouve Nicolas Legrand.
Avec tout d'abord l'actualité à l'étranger, 2 enfants ont été tués et 11 personnes blessées dans une attaque au couteau à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre. L'attaque a eu lieu dans un club pour enfants situé au centre-ville. Parmi les blessés, 6 enfants et 2 adultes se trouvent dans un état critique. Le suspect est un homme de 17 ans. Il a été interpellé et placé en détention. Le Royaume-Uni connaît une recrudescence des violences à l'arme blanche. Elles ont augmenté de 7% l'an dernier par rapport à 2022, passant à près de 50 000 et ont presque multiplié par 2 en 10 ans. Il promet une réponse sévère aux attaques contre Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou affiche sa fermeté en déplacement dans le Golan. Tel Aviv n'entend pas se laisser intimider par la frappe qu'elle impute au Hezbollah, Alban Le Prince.
Oui, hein, 2 jours après l'attaque de roquettes qui a tué 12 jeunes âgés de 10 à 16 ans qui jouaient au football, Benjamin Netanyahou s'est rendu aujourd'hui à Majd al-Shams pour déposer une gerbe dans le stade, théâtre de cette frappe meurtrière. Ces enfants sont nos enfants, l'État d'Israël ne laissera pas et ne peut pas laisser passer cela, a déclaré le Premier ministre israélien qui a tenté, malgré les huées de plusieurs dizaines de personnes, de rassurer la communauté druze majoritaire dans la ville de 11 000 habitants. Israël se tiendra aujourd'hui, demain et pour toujours à vos côtés, a-t-il déclaré, promettant une nouvelle fois une réponse sévère. On ne connaît ni la date, ni l'ampleur qu'elle aura. Benjamin Netanyahou est le seul décisionnaire. De son côté, l'Iran a mis en garde l'État hébreu contre les conséquences d'une telle riposte.
Alban Le Prince pour Europe 1. Toujours à l'étranger, le Venezuela dans le doute après l'élection présidentielle. Le sortant Maduro a été réélu pour un 3e mandat, mais l'opposition revendique aussi la victoire. Résultat, une partie de la communauté internationale doute de la sincérité de ce scrutin. Paris appelle d'ailleurs Caracas à faire preuve de la transparence la plus totale sur le processus électoral.
Info matin, il est 6h48.
L'actualité en métropole maintenant avec des sabotages en série ces 3 derniers jours. Des installations de plusieurs opérateurs téléphoniques vandalisées dans au moins 6 départements. Des câbles de fibre optique SFR, Bouygues ou encore Free ont été sectionnés net, impactant toutefois peu de clients. Le parquet de Paris a tout de même ouvert une enquête. Tiffaine Dubuard pour Europe 1.
Un des fourreaux de câbles sectionnés net, probablement à l'aide d'une disqueuse ou d'un outil similaire. Au total, selon SFR, 5 points du réseau ont été ciblés sur 5 départements différents. Tout ça entre 1h et 3h du matin. Résultat, 9 départements dont les Bouches-du-Rhône et l'Oise touchés. Des sabotages simultanés donc, qui laissent penser à une action coordonnée et très bien préparée pour Vincent Brouette, professeur spécialiste de la sécurité des systèmes d'information à Catch Business School.
Les réseaux ne sont pas ouverts à tout vent, c'est sécurisé. Le réseau est supervisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par des équipes. Disons qu'il faut connaître le terrain, il faut connaître l'endroit et il faut connaître la manière de faire. Donc, ce n'est pas le premier venu qui peut commettre ce genre d'acte. Il faut forcément avoir les connaissances techniques, avoir la connaissance du terrain pour aller cibler justement des endroits aussi spécifiques.
Des similitudes avec les actes ciblant plusieurs postes d'aiguillage de la SNCF vendredi. Pour l'heure, aucune revendication, mais une enquête vient d'être ouverte pour dégradation commise sur des dispositifs de relais de télécommunication.
Et du côté de la SNCF, justement, les réparations sont terminées et les connexions sont bien rétablies. C'est félicité la compagnie ferroviaire, 3 jours seulement après les attaques massives, après lesquelles 100 000 passagers ont été pénalisés par des annulations de trains. Un homme a été interpellé et placé en garde à vue en Seine-Maritime. Le suspect marchait sur des voies ferrées. Il est originaire de la région toulousaine et il est connu pour ses appartenances à la mouvance d'ultra-gauche. Toujours en métropole, la première canicule de l'été s'installe et les fortes chaleurs ont fait une victime à La Palme dans l'Aude. Une fillette de 2 ans a succombé à la chaleur dans une voiture où son grand-père l'avait laissée endormie. L'homme l'avait laissée là pour rejoindre la mère de la petite fille et ses 2 autres enfants. Quand il a retrouvé la fillette, celle-ci se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. Les pompiers n'ont pas réussi à la réanimer. Le grand-père a été placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir fait preuve de négligence. Le parquet de Narbonne a donc ouvert une enquête pour homicide involontaire. En métropole, 41 départements sont donc toujours en vigilance orange. 35 degrés sont attendus à Paris pour les heures qui viennent. Et les épreuves des Jeux Olympiques vont donc passer en alerte jaune. Un épisode qui va d'ailleurs s'étendre, prévient le prévisionniste de chez Météo France, Jérôme Lecoux.
Actuellement, nous avons une dépression positionnée au niveau du Portugal et qui engendre des remontées d'air chaud à 30-35 degrés, voire plus, hein, qui va remonter jusqu'à nous. Donc ça affecte particulièrement les régions du sud-ouest qui, déjà depuis la journée de dimanche, donc connaissent des températures très chaudes à la fois la nuit et puis la journée. Mais la chaleur continue à remonter vers le nord, jusqu'à la Loire, voire même un peu au-delà, puisqu'on aura des températures de 35 à 36 degrés sur les deux tiers du pays, y compris en région parisienne.
Le prévisionniste Météo France, Jérôme Lecoux. Justement, on va parler des JO dans un instant. Ce sera juste après la pause avec une belle moisson de médailles et puis une qualification pour une finale en natation pour la Calédonienne Emma Terebo.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Roulez dès maintenant pour 1 995 000 francs TTC et commencez à payer dans 3 mois, c'est possible. Jusqu'au 25 août, profitez de notre offre exceptionnelle sur la Peugeot 208 Active à partir de seulement 1 995 000 francs TTC. Design, motorisation, connectivité, la Peugeot 208 a tout pour vous plaire. Rendez-vous dès maintenant au showroom Peugeot au village automobile PK4 Nouméa. Offre valable jusqu'au 25 août 2024 en partenariat avec Socalfi. Un crédit vous engagé doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Plus d'informations et conditions en concession ou sur Peugeot.nc. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Bonjour.
Le service des bourses et de l'enseignement supérieur de la Province Nord informe les jeunes ressortissants de la Province Nord désirant poursuivre des études supérieures en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger que la campagne de demande de bourse 2025-2026 a débuté depuis le 1er juillet 2024 et s'achèvera le 31 octobre 2024. Pour effectuer cette demande, les démarches se font toujours en ligne bourse.province-nord.nc.
RRB, première radio d'information.
La suite de votre journal avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et avec évidemment une page sport dédiée aux Jeux Olympiques de Paris.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Avec une très belle moisson de médailles cette nuit pour la délégation française, on va y revenir. Mais avant cela, Léo Fichou, la Calédonienne Emma Terebo était dans le bassin de la Défense Arena ce matin.
Et oui, quelques courageux se sont levés tôt et ont bravé le froid pour regarder ensemble au snack au Faré du CNC la demi-finale de la Calédonienne Emma Terebo. La nageuse s'est qualifiée pour la finale du 100 mètres d'eau ce matin. Après le stress et la fierté qui prime pour Chloé, elle était au CNC pour suivre la course de sa copine.
Bah, on est tous hyper contents, ça représente les couleurs du club et de la Calédonie, donc on espère que demain elle pourra accéder au podium. Assez stressée parce que le départ n'était pas terrible et elle s'est bien rattrapée sur la suite, donc franchement c'est cool et ça fait des bonnes émotions.
La finale du 100 mètres d'eau d'Emma Terebo, c'est donc demain matin, juste avant 6h, et la Calédonienne sera accompagnée d'une autre Française lors de cette finale.
Et je le disais, donc il y a eu une pluie de médailles côté tricolore la nuit dernière.
Et oui, 6 médailles cette nuit, une en or, 4 en argent et une en bronze. Nicolas Gestin, d'abord, il a offert un 4e titre olympique à la France ce matin en survolant la finale du canoë slalom. On l'écoute.
Je pense que je ne me suis pas créé le scénario le plus simple en remportant la demi avec autant d'avance. Mais voilà, je savais que j'avais encore de la place pour améliorer mon temps. Je ne pensais pas l'améliorer autant. Mais bah, je crois que ce fameux avantage de la maison a payé. Hein, parce que pour aller chercher des manches comme ça, je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais une manche aussi aboutie.
C'est la première médaille olympique de sa carrière. Nicolas Gestin est le 3e champion olympique français en canoë slalom après Tony Estanguet en 2000, 2004 et 2012 et Denis Gargaud-Chanu en 2016. Un peu plus tôt en équitation dans le parc du château de Versailles, le concours complet a vu l'équipe de France décrocher une autre médaille d'argent par équipe. Juste derrière les Britanniques, les Japonais complètent le podium. En VTT cross-country, Victor Koretsky est passé à un rien de la médaille d'or. Au lendemain de la démonstration de Pauline Ferrand-Prévot chez les femmes, le Français a terminé à 9 petites secondes du vainqueur Tom Pidcock. Après ses échecs à Rio en 2016 et Tokyo en 2021, il remporte donc la médaille d'argent chez lui à Paris.
Ah, c'est un sentiment mitigé. J'ai rêvé vraiment de l'or. Il m'a pas manqué grand chose. Tom était vraiment fort, il a crevé. Quand il est rentré sur moi, je savais quand même que je pouvais le battre parce qu'il a fait un gros effort pour boucher le trou. Et voilà, dans la dernière bosse, j'arrive à faire un écart. Et malheureusement, je fais une petite faute dans la descente, petite faute d'inattention. Je suis vraiment déçu. Cette erreur, elle me coûte la médaille d'or. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça, beaucoup de sacrifices, beaucoup de moments à passer loin de la maison. Et, Et d'avoir une médaille d'argent, c'est déjà une très belle récompense. Et à froid, j'ai mal à savourer, mais je pense que je vais vite la savourer et vite l'apprécier. Surtout devant le public français, devant ma famille. C'est énorme, on rêve tous d'une médaille olympique et aujourd'hui je l'ai. Donc c'est une grande satisfaction tout de même.
Victor Koretsky, donc médaillé d'argent en VTT cross-country. Le tir à l'arc aussi est en argent. L'équipe de France masculine faisait face aux intouchables sud-coréens et la marche était trop haute. Baptiste Hadis, Thomas Chiro et Jean-Charles Valadon obtiennent donc une très belle médaille d'argent. Et puis les deux dernières médailles de la nuit ont été remportées sur les tatamis. En judo, Johan Benjamin Gaba, chez les moins de 73 kilos, a été la surprise du jour en remportant l'argent. 35e mondial, il a été battu en finale par le numéro 1 mondial. Dans le même temps, Sarah Léonie Sizik, chez les moins de 57 kilos, a su se remobiliser après sa défaite en demi et remporter par Ripon son combat pour la médaille de bronze. Elle était très émue à l'issue du tournoi.
C'est magnifique de finir comme ça. C'est vrai qu'on s'attend tous à ce que les journées soient toutes belles. Et c'est vrai qu'avoir une journée sans défaut, ce serait l'idéal. Mais c'est ça le sport aussi, c'est ça aussi mon quotidien. C'est d'avoir des moments de doute, des fois des échecs, des réussites, des victoires. Et les émotions vraiment que tout ça procure. Et quand on arrive au bout des choses, c'est vrai que c'est... Là, c'est tout qui redescend, c'est toute l'année qui redescend. Enfin, je reviens avec une médaille à Paris, ici, chez moi, avec le public français qui m'encourage, qui m'acclame, ma famille. Vraiment, tout France Judo, la famille du judo, c'est incroyable.
Sarah Léonie Sizik, donc médaille de bronze, chez les moins de 57 kilos en judo. Et puis il y aura forcément deux nouvelles médailles d'ici quelques minutes, puisqu'en escrime, deux Françaises sont actuellement en finale du sabre. D'un côté Sarah Balzer, de l'autre Manon Apiti-Brunet. L'or et l'argent sont donc assurés pour la délégation française.
Et puis les compétitions continuent du côté des sports collectifs.
Les bleus du rugby à 7, les féminines visent le dernier carré du tournoi olympique. La calédonienne Yolaine Yengo et ses coéquipières sont en quart de finale après le 3-3 a réussi en phase de poule. Lors du dernier match cette nuit, elles ont battu les États-Unis 31-14. Le quart de finale des Bleus contre le Canada démarre dans deux petites minutes à 7h, heure de Nouméa. Et puis les autres résultats de la nuit en handball. Les coéquipiers de Nicolas Karabatic ont enchaîné une seconde défaite dans le tournoi olympique. Défaite 27-22 contre la Norvège après le match perdu contre le Danemark. En basket, les Françaises, elles, ont démarré leur compétition de la meilleure des manières. Elles ont battu les Canadiennes 75-54.
Et puis enfin, on suit aussi particulièrement le surf.
Oui, avec Kaoli Vast qui s'est qualifié pour les quarts de finale. Il a battu le numéro 2 mondial, l'Américain Griffin Colapinto ce matin. Au prochain tour, il affrontera un autre Français, Johan Duru. Il y aura donc, quoi qu'il arrive, un tricolore en demi-finale. Et chez les femmes, il y aura aussi un huitième de finale 100% féminin entre Vainé Fierro et Johan Defay. Ce sera d'ici la fin de matinée.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Allez, avant de refermer cette page, on joue sur Radio Rythme Bleu.
De mémoire de jeu avec les stations chez les Pacifiques.
Avec votre carte fidélité, toujours des remises sur le carburant et plein d'autres avantages.
De mémoire de jeu pour gagner chaque jour un bon de carburant de 5000 francs grâce à notre partenaire. Le principe est simple, vous le connaissez maintenant. Chaque jour dans le journal du matin et celui de la mi-journée, nous vous posons une question sur l'histoire des Jeux Olympiques et ceux qui en ont écrit la légende. Vous envoyez votre réponse au 31-46 jusqu'à 17h, qui est l'heure d'un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et dans le journal du soir, vous aurez évidemment la réponse à la question du jour et bien sûr le nom du gagnant. Voici notre question aujourd'hui. Il est le seul coureur de fond à avoir remporté une médaille d'or sur le 5000 mètres, le 10 000 mètres et le marathon lors de la même Olympiade. Alors de qui s'agit-il ? S'il s'agit du Marocain Hicham Elgarouj, vous tapez JO1. S'il s'agit du Tchèque Emil Zatopek, vous tapez JO2. Et s'il s'agit de l'Éthiopien Haile Gebrselassie, vous tapez JO3 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Vous avez donc jusqu'à 17h pour envoyer votre réponse. C'est l'heure où aura lieu le tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je rappelle qu'il y a un bon d'achat d'essence de 5000 francs offert par notre partenaire à gagner.
Dans vos stations Shell et Pacifique, gagnez 3 Toyota Hilux, 730 cartes de carburant à 15 000 francs et profitez tous les jours de nos offres fidélité et des bons plans en magasin. Rendez-vous vite dans vos stations Shell et Pacifique et n'oubliez pas votre carte de fidélité.
Il est 7h, l'heure de conclure ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover,
aménagée.
Et notre coureur de fond à nous, c'est Thierry, pour la météo.
Ce matin, aux Loyautés, les nuages qui circuleront apporteront quelques averses isolées. Partout ailleurs, malgré un voile d'altitude sur l'ouest, le soleil l'emportera largement, mais des nuages se formeront en fin de journée. Le vent, lui, sera le plus souvent faible. Sur le sud-ouest, la pointe sud et l'île des Pins, il atteindra 5 à 10 nœuds en fin de matinée, d'ouest à nord-ouest. Cet après-midi, aux Loyautés, les passages nuageux deviendront plus fréquents. Ils déposeront des averses. Ailleurs, le ciel s'ennuagera au cours d'après-midi avec quelques averses isolées qui circuleront sur l'ouest. Des averses plus marquées se développeront sur le relief et elles déborderont parfois sur l'est en fin de journée. Sur l'ouest et les pointes nord ainsi que le sud, le vent, lui, sera orienté au sud-ouest, puis au sud. Il se renforcera entre 10 et 15 nœuds, voire 15 nœuds sur le nord-ouest. Et la pointe nord, les températures, elles, entre 24 et 27 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, puis le billet d'humeur sera signé Elisabeth Noir et ensuite on vous retrouvera au 25 46 46 pour Vous avez un avis. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.